CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
À l'émission aujourd'hui, la condition féminine, 85 ans après l'obtention de leur droit de vote et à quelques jours de leur journée internationale, les femmes, est-ce qu'elles ont réalisé les progrès politiques, sociaux, économiques espérés ou ont-elles encore bien des luttes à mener? Mes invités, Jocelyne Bibeau, ex-enseignante, chorégraphe et danseuse, Nancy Annie Léveillé, coordonnatrice de projet en économie circulaire chez Montérégie Économique, Rosabelle Picard, étudiante au cégep de Sorel-Tracy, participante au récent Forum étudiant 2024, la simulation là, des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Shirley St. James, enseignante retraitée du cégep de Sorel-Tracy et Lisette Trépanier, présidente du syndicat de l'enseignement du Paris-Richelieu. Suzanne Roy, députée de Verchères et ministre de la Famille, devait être des nôtres, mais voilà que le premier ministre, hier soir, a convoqué un conseil des ministres spécial, puis il a choisi une très mauvaise heure, 11h30. En lieu et place de Mme Roy, une ex-conseillère municipale et fine observatrice de la scène politique, ma consoeur Corina Bastiani. Alors, je m'entretiens avec elle, au pluriel, après la pause.
Sur le rythme.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Célébration annuelle samedi, le 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes. 85 ans après l'obtention par celle-ci le droit de voter au Québec. La Tribune a pris de l'avance sur la journée et réunit 6 femmes autour de ses micros pour discuter conditions féminines. Alors, m'entoure ce midi Jocelyne Bibeau, ex-enseignante, chorégraphe et danseuse. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Sylvain.
Il y a également avec moi ce midi Nancy Annie Léveillé, qui est coordonnatrice en économie circulaire chez Montérégie Économique.
Bonjour. Bon midi.
Bon midi. Rosabelle Picard, étudiante au cégep de Sorel-Tracy, participante au récent Forum étudiant 2024, simulation des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Bonjour, Rosabelle.
Bonjour.
Également, Shirley St. James, enseignante retraitée au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Shirley.
Bonjour, Sylvain.
Lisette Trépanier, présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Merci d'être là,
bonjour,
Lisette.
Sylvain.
Et en lieu et place de Suzanne Roy, qui devait être ici, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie, mais qui a un conseil des ministres spécial convoqué hier soir par M. Legault pour 11h30 ce matin. Alors, en lieu et place de Mme Roy, une ex-conseillère politique municipale, fine observatrice de la scène politique, Corina Bastiani. Bonjour, Corina.
Bonjour, Sylvain.
Première question à vous toutes. Quelle relation avez-vous, chacune d'entre vous, avec le féminisme? Est-ce que vous vous décrivez, je fais un tour de table, comme féministe? Parce que j'ai eu, dans le cadre d'émissions comme celle-ci, à la veille ou le jour même de la Journée internationale des droits des femmes, des femmes qui m'ont dit ne pas s'estimer féministe, ce qui m'a un peu surpris. Vous avez le droit de me surprendre à votre tour. Shirley, tu brises la glace.
Féministe, c'est quelqu'un qui recherche l'égalité entre les hommes et les femmes, tout simplement. C'est pas d'être anti-homme que d'être féministe.
Alors, tu te décris comme féministe.
Tout à fait.
Féministe. Nancy, Annie?
Je dirais j'en suis, je l'assume. Et c'est effectivement jamais au détriment des autres. C'est pour une atteinte à l'égalité, à l'autonomisation des femmes. On est quand même 50% ou plus de la population.
Je pense que c'est dans ta génération, Rosabelle, qu'il y a moins de jeunes femmes féministes qui ont pris un certain... qui se sont éloignés un peu de ce mouvement. Est-ce que je me trompe? Toi, où en es-tu?
Personnellement, je me considère comme féministe. Je trouve que c'est juste d'avoir une égalité terre-à-terre entre les hommes et les femmes. Même au niveau politique, je pense que c'est important que hommes et femmes soient représentés à l'Assemblée nationale, puisque on est hommes et femmes dans la population, donc... c'est valide d'avoir les deux.
Alors, tu te décris, toi, comme féministe.
Oui, absolument.
Lisette Poisson-Doux est oui.
Aussi, oui, mais je pense aussi que la génération de Rosabelle, c'est, ils n'ont pas vécu...
des grands combats.
Oui, ils sont moins conscients de où on est parti pour en arriver, où on l'est aujourd'hui. Puis moi, je dirais, oui, je suis féministe, mais dans les actions... je ne vais pas ramasser quelqu'un qui prononce un mot qui me dérange. Je pense qu'il faut rester dans l'éducation. Des fois, dire, bien, ce mot-là, aujourd'hui, il ne se dit pas quand on dit les petites madames ou des expressions comme ça. Je pense qu'il faut plutôt dire pourquoi aujourd'hui on les trouve.
Je me fais appeler de temps en temps mon petit monsieur.
Oui, c'est ça.
Ça ne vous rend pas trop avec les petites
madames. Mais dans les actions, vous savez que les femmes au Québec, on a un retard de 4 $ de l'heure, une moyenne générale, sur à profession égale la gente masculine. C'est un combat qui reste à mener, mais il faut aussi veiller constamment à ne pas perdre les acquis qui ont été faits, je dirais, ces 100 dernières années, tranquillement.
OK. Jocelyne Bibeau, féministe?
Oui, j'ai de la misère avec la dénomination de féministe.
Ah, bon, en voilà une! Bon.
Ben, je sais pas, je pense que d'être femme, c'est de s'assumer dans ce qu'on est, des rêves qu'on a, de ce qu'on veut réaliser, en dehors de l'étiquette, est-ce que... féministe veut dire combative, revendiquer. C'est un terme pour moi qui me chavire un peu.
Ça fait péjoratif, c'est le ist à la fin.
Il y a quelque chose qui est comme...
Il y a des gens qui ont de la difficulté avec tous les ist. Ouais. Moi, je me décris volontiers séparatiste, mais il y en a qui disent c'est séparatiste, pointable.
Ouais. Mais je vois les femmes créatives, battantes, qui veulent changer la vie, qui veulent qu'elles soient bien pour elles, pour leur famille.
Tu aimes mieux les Yves que les ist. Créatives. Toi, Corina?
Je dirais humaniste, d'abord et avant tout, mais je pense à Suzanne Roy, que je remplace à pied levé ce midi, qui, elle, à l'époque où on s'est côtoyés dans le monde municipal, rassemblait beaucoup les femmes en politique. Tandis que moi, à l'époque, ça m'interpellait moins d'être seulement avec des femmes en politique, de faire des regroupements de femmes politiques. Donc, ce côté-là, puis c'est drôle parce que je viens tout juste de terminer le livre de France Bélil, ex-mairesse de Gatineau, que j'ai devant moi, oui, intitulé « L'heureuse élue ». Puis elle aussi, dans le livre, elle se décrit comme ça. Je voulais pas nécessairement qu'on vote pour moi parce que j'étais une femme, je le faisais pas. Donc, faut élargir les horizons, puis je pense que c'est une question aussi d'humanisme, oui, puis le féminisme en fait partie, assurément.
Je pense que Shirley veut rebondir sur ce que tu as dit.
Oui, ce que Jocelyne a dit.
Jocelyne?
Oui, parce que je comprends que le terme féministe peut être interprété beaucoup comme revendicatrice. Et nécessairement, c'est comme si on était en guerre alors qu'on ne l'est pas. Mais il fallait revendiquer, parce qu'on n'avait pas de droit il y a 100 ans. On n'avait pas le droit d'avoir un compte de banque à soi, on n'avait pas le droit d'avoir une maison à soi, de faire un emprunt à la banque, on n'avait pas le droit de vote, cela vote soi. L'équité salariale, n'en parlons même pas. Il n'y avait pas de garderie. Maman, ta maison était trop occupée pour... aller travailler à l'extérieur. Il n'y avait pas de contraception. C'est en 1960 que la pilule est apparue. Tous ces, tous ces droits-là que nous avons maintenant.
Je conjugue « falloir » à l'imparfait. Il fallait revendiquer, mais ne faut-il pas continuer à le conjuguer au présent?
Il fallait revendiquer pour pouvoir avoir des droits qui nous permettaient d'avoir accès aux mêmes privilèges que les hommes. Mais d'être féministe aujourd'hui, c'est faut pas non plus juste s'asseoir sur ces privilèges-là qu'on a obtenus, parce que présentement, on voit que partout dans le monde, ça recule.
Et nous allons y revenir. Alors, il faut les protéger, ces privilèges, s'assurer qu'ils ne tombent pas
et en conquérir d'autres. Il paraît que selon tout nouveau rapport de l'ONU, il faudra encore 286 ans pour atteindre l'égalité parfaite.
Alors, on verra par sa personne, ici, autour de la table.
Moi, j'irais en rajoutant quelque chose. Si tu me permets, Sylvain,
oui, Lisette.
Quand le gouvernement transforme des lois, comme le projet de loi 89, où il vient encadrer à son avantage le rapport de force de négociation dans des milieux comme celui de l'enseignement ou de la santé, qui sont à prédominance féminine, c'est une façon de nous faire reculer, là. Fait qu'il faut se battre sur toute la ligne. Des fois, on donne pas l'impression d'attaquer les femmes, mais ça se peut que la portée d'un geste, d'une loi, vienne quand même attaquer nos droits.
Alors là, nous avons entendu non seulement la féministe, mais la syndicaliste. Madame Léveillé?
Effectivement, je suis d'accord avec Lisette. L'importance de réfléchir aux impacts des règlements, des lois, des décisions qui sont prises dans la gouvernance est très, très importante. Parce qu'il peut y avoir des rebonds, des travers qu'on n'a pas identifiés. Et puis ça revient, tout est dans tout, ça revient quand il y a moins de femmes autour de ces tables-là et quand elles ne sont pas de milieux différents également. Si on a uniquement des femmes qui ont été des premières de classe tout le temps, ce que moi j'appelle des parcours dynamiques, là, des parcours qui vont vite, 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 des parcours fusées, si on a uniquement ces femmes-là qui viennent d'un milieu souvent beaucoup plus privilégié, etc., même quand elles le veulent, elles vont oublier certaines réalités, et souvent les revers et les rebonds des lois vont avoir un coût beaucoup plus grand chez les femmes que chez les hommes.
Dans les années 1910, plusieurs groupes suffragistes émergent dans l'espoir d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Elles obtiennent ce droit en 1918 au fédéral. Il faut attendre 1940 au Québec, et encore, parce qu'elles vont pouvoir voter pour la première fois en 1944 seulement. Le Canada plus progressiste que le Québec, plus hâtivement progressiste, en tout cas, Corina Bastiani, est-ce que...
Mais il faut se rappeler aussi qu'on a retiré le droit de vote des femmes. Hein. À l'époque des Patriotes, les femmes veuves avaient le droit de vote, entre autres. C'est un... le vote chez la femme et la statistique montre aussi qu'elle sort moins voter. Hein, c'est assez... Puis le taux de participation tout court, encore faut-il avoir le droit, encore faut-il l'exercer.
Et il fut un temps où elle votait beaucoup comme son mari, vous vous souvenez?
Aussi, vous avez, oui, tout à fait.
Certaines d'entre vous se souviennent peut-être de cette époque-là. Hein? Est-elle complètement révolue, vous pensez?
Ouais. Ben non, ça n'existe plus, ça, voter la même chose.
Voter comme son mari, ça n'existe
plus? Jamais.
Non. Ben même, moi, non. J'ai déjà entendu même des maris dire « Je vais demander à ma femme ce qu'elle
a encore. »
Des fois, c'est plus une question de qui suit ça et plus au courant, tu sais, de dire « Oh ben moi, je n'écoute pas ça, je ne fais pas confiance, je vais suivre. » Autant, ça peut être l'homme que la femme, là. Tout le monde ne suit pas nécessairement, là, tous les enjeux.
La politique en 2025, tant fédérale, québécoise que municipale, elle est encore majoritairement un monde d'hommes. Les femmes représentées en 2024, là, 35% des personnes élues à titre de députée fédérale, de députée provinciale et de mairesse. Comment vous expliquez ça?
La conciliation travail-famille.
Ben oui. Moi, j'ai eu un enfant dans mon deuxième mandat. J'ai vécu une grossesse en tant qu'élue. Puis, non, au-delà de la conciliation travail-famille, c'est que c'est une fonction, c'est un devoir être élue. Je pouvais pas rester longtemps avec mon bébé, même si j'avais voulu. Là, il y avait un vote de moins autour de la table. C'est une autre dynamique, c'est pas un emploi simple. Puis c'est aussi, et je me suis déjà fait dire aussi, bon, elle fait une montée de lait, il y a toutes sortes de dynamiques, mais la politique, elle est aussi réfléchie par des hommes dans son passé. Donc, toute la notion de réglementation, de façon de réfléchir, de façon de débattre, est quand même empreinte d'un certain patriarcat.
Shirley?
Oui, je pense aussi que la politique est plus cruelle pour les femmes que pour les hommes. Déjà, au niveau des campagnes électorales, les femmes doivent être toujours très bien mises, bien coiffées, pas avoir l'air trop agressives dans leur
propos. Pas juste les femmes. Regarde, M. Zelensky s'est fait dire par Trump qu'il n'était pas habillé correctement.
Oui, mais c'est un soldat. Il est arrivé avec son habit de soldat. C'est normal. Il est représentant d'un pays en guerre. Bon, mais en cours d'exercice aussi, il y a beaucoup de femmes qui se font, je vais utiliser le terme québécois, là, qui se font écœurer sur les réseaux sociaux ou qui se font carrément faire des menaces de mort. Parlez-en à Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui s'est fait faire des menaces de mort, qui est obligée d'engager des gardes du corps pour la protéger. Alors, est-ce que, justement, le fait d'être une femme, ça ouvre pas la porte un peu plus à des gens qui veulent intimider que quand on est un homme? Je sais pas.
Nancy Annie Léveillé.
Je suis d'accord, Charlie. Effectivement, le jugement sur les femmes va parfois être plus sévère et beaucoup plus pointu personnel, parfois moins sur les idées, plus sur l'apparence, l'âge, le poids, etc. Et ça reste, je suis également d'accord avec Corina, ça reste que c'est une arène, la politique. Donc, c'est un lieu de combat, etc. Je pense que plus nous serons nombreuses, plus elles seront nombreuses, parce que je ne suis pas de celles qui se présentent, plus elles seront nombreuses, plus ça s'atténuera et on le fera de façon différente. Les jeunes d'aujourd'hui le font différemment, mais il y a encore beaucoup à gagner. Atteint notre 30%.
Oui, une fois plongée dans l'arène politique, la femme y a-t-elle en 2025 tout autant de pouvoir que l'homme? Corina, qu'en dit ton expérience?
Le pouvoir sur papier, assurément. Elle représente un vote autour d'une table. Le pouvoir, je pense beaucoup à France Bellil, parce qu'elle vient de publier son livre et elle a démissionné et elle a dénoncé beaucoup dans
sa mairesse de Gatineau.
Et elle a dénoncé beaucoup que le système est un peu beaucoup archaïque. Donc oui, on a une voix. Qui est égalitaire au sein d'une table de conseil.
Théoriquement,
mais qui... je pense que c'est le sens. C'est toute une question de sens puis de compréhension du rôle. Parce que même les élus en place, parfois, ne connaissent pas ce qu'est être un élu. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai mené beaucoup comme combat en tant qu'élu pour convaincre des jeunes de faire de la politique. Mais je trouve que c'est une notion, l'importance de comprendre. Puis peut-être que la femme s'intéresse peut-être un petit peu
plus. Tu as participé, il n'y a pas bien longtemps, Rosabelle, on le disait, à une simulation parlementaire à l'Assemblée nationale. Elle s'appelle, cette simulation, le Forum étudiant. Qu'en retiens-tu de cette expérience, toi?
Je l'ai faite à deux reprises, le Forum étudiant, et je peux dire que c'est une expérience qui m'a changée en tant que citoyenne. Tu vois un peu l'envers du décor, même pas juste en tant que femme, mais en tant que personne qui fait la simulation, ça te change. Tu vois tellement de petits détails que tu ne comprends pas quand tu le regardes à la télé au canal de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Mais en tant que femme, je trouve que c'est une fierté de se dire que je peux mettre les pieds.
Oui.
En fait, j'ai mis les pieds dans les deux salons parce qu'il y en a un qui est en travaux en ce moment, mais c'est vraiment une fierté de dire ça.
Et sur la question que je posais à Corina, femmes et hommes font-elles de la politique différemment? Elle nous a répondu ce que c'était dans la vraie vie. En simulation, qu'est-ce que tu as retenu sur cet aspect-là de ton expérience?
C'est particulier parce que cette année, à la simulation, il y avait une première ministre femme et à l'opposition, c'était également une femme. Donc, c'était différemment de la première année que j'ai fait, c'était pas mal juste des hommes. Mais je trouve que les femmes, ils sont plus... peut-être plus aiguisées. Ils peuvent peut-être plus voir les petites tendances à... un peu les tensions sociales. Ils sont plus comme... Ils sont meilleurs pour analyser vraiment les enjeux que les hommes avec qui j'ai été à la simulation. Peut-être que dans le passé, les femmes, c'est elles qui analysaient les dynamiques sociales, donc peut-être que ça pourrait avoir à ça, mais c'était fort intéressant.
Mesdames, on va s'interrompre pour une pause publicitaire. À quelques jours de leur journée internationale, c'est la Tribune des femmes à CJSO.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
TDF Canada et la ville de Sorel-Tracy annoncent le début des travaux de construction d'une nouvelle usine de fabrication de textiles techniques non tissés dans la zone industrialo-portuaire Saint-Laurent. Ce projet manufacturier d'envergure qui permettra de rapatrier une expertise essentielle au Québec et de sécuriser la chaîne d'approvisionnement d'entreprises d'ici représente le plus gros investissement privé des dernières décennies dans la région. D'une superficie de 350 000 pieds carrés, cette usine de pointe nécessitera un investissement de près de 190 millions de dollars et générera la création de 120 emplois qualifiés. Les travaux de construction s'amorceront sous peu. La mise en service de l'usine est prévue à la fin de l'année 2027.
La bonne nouvelle économique vous a été présenté par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
À l'émission aujourd'hui, la condition féminine, mes invités, Corina Bastiani, ex-conseillère municipale, Jocelyne Bibeau, ex-enseignante, chorégraphe et danseuse, Nancy-Annie Léveillé, coordonnatrice de projet en économie circulaire chez Montérégie Économique, Rosabelle Picard, étudiante au cégep de Sorel-Tracy, Charlie Saint-James, enseignante retraitée du cégep de Sorel-Tracy, et Lisette Trépanier, présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Lisette, présidente du syndicat. Place des femmes au sein du mouvement syndical en 2025. CSN et FTQ sont présidés par des femmes. Je parle de la structure nationale. La CSQ, à laquelle ton syndicat appartient, l'est par un homme là, depuis 2021, mais qui a pris la relève d'une présidente, soreloise d'ailleurs, Sonia Etier. Le syndicalisme au féminin, je parlais de la politique là, tantôt, le syndicalisme maintenant au féminin est-il différent du syndicalisme au masculin?
Bien, entre nous, quand on est en centrale ou en fédération, je ne serais pas portée à dire qu'il y a une différence. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes. Je pense conciliation travail-famille, la lourdeur de la tâche aussi, d'être souvent partie pour des instances, rend peut-être la tâche difficile là, à ceux dont les enfants sont plus jeunes. Mais je pense qu'on travaille beaucoup dans le respect. Puis les hommes qui sont avec nous dans le milieu syndical travaillent aussi beaucoup pour les droits des femmes parce qu'il reste qu'on est des secteurs à prédominance féminine.
Ça. Mais j'allais justement dire, il y a beaucoup d'enseignantes autour de cette table, outre toi-même, Lisette, Jocelyne Bibeau, Shirley Saint-James, ce fut aussi votre monde. Dans le domaine de l'éducation préscolaire et primaire, dont vous n'étiez pas, Jocelyne, tu enseignais au secondaire, Shirley au cégep, la proportion de femmes s'élève à 88 % d'après les données du ministère de l'Éducation du Québec. Comment vous expliquez ça? Que tant de femmes et si peu d'hommes en éducation préscolaire et primaire?
Hey, je suis embêtée de te répondre.
Ouais. C'est un bon phénomène.
C'est historique.
Historiquement, c'était réservé aux femmes.
Oui, stigmatisation des milieux. C'est prendre soin d'un enfant. Quand les enfants sont à la maternelle, la maîtresse, faut même qu'elle aille aux toilettes les essuyer. Bien souvent, là, ils sont pas tous encore très autonomes. C'est prendre soin d'un enfant, c'est un rôle très maternel. Remarque, Sylvain, que plus tu montes dans la hiérarchie scolaire, plus il y a d'hommes. Au cégep, il y a plus d'hommes que de femmes. À l'université, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes.
Au secondaire, il y a plus d'hommes qu'au primaire.
Est-ce que c'est parce que les femmes n'ont pas pu commencer à étudier à l'université de tout temps? C'est quoi, depuis les années 40, 50, que les femmes ont le droit d'étudier à l'université? Et surtout, depuis le rapport Parent. Parce que quand l'Université du Québec a ouvert, suite au rapport Parent, les femmes ont été beaucoup plus invitées à étudier, à faire des études supérieures. Et on a beaucoup plus actuellement de diplômés, même parmi les femmes. Si je me trompe pas, là, j'ai pas les statistiques avec moi, mais je pense qu'il y a plus de diplômés que de diplômés masculins.
On l'a dit,
masculins.
Toutes les études démontrent qu'elles réussissent mieux à l'école et qu'en effet, il y a de plus en plus de diplômés accent aigu ES que de diplômés accent aigu S.
C'est encore plus inconcevable de penser qu'ils ont un 4 $ de moins en moyenne à travail égal de salaire que les hommes.
Je veux parler de la présence des femmes sur le terrain de l'économie. C'est un peu pour ça que je t'ai invité, Nancy Annie, qui est chargée de projet en économie circulaire chez Montérégie Économique. le souci d'activité entrepreneuriale laissant une empreinte environnementale moindre, est-ce que tu dirais que les femmes l'ont davantage que les hommes, ce souci-là, ou est-ce que j'invente ça?
J'ai pas d'études
non.
En tête, mais j'aurais un préjugé favorable.
Oui, hein?
J'aurais un préjugé favorable. Qu'on pense aux luttes environnementales, sont souvent venues des groupes féministes également. C'était des gens qui étaient très proches des groupes féministes. Et effectivement, souvent, les femmes vont peut-être... Et j'ai travaillé également là, pour un projet qui s'appelait Femmes et entreprises, donc il y a plus de femmes entrepreneurs. Et... c'est un changement de paradigme, souvent, de quitter la maison, d'être moins disponible, de se rendre plus disponible pour le travail, de se prioriser sur la famille sans la laisser tomber, et d'assumer également, espérer gagner plus cher que notre conjoint sans que ça soit gênant pour lui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est insidieux. Mais oui, je pense que les femmes vont être plus amenées, vont plus naturellement remettre en perspective le modèle, être plus portées vers l'innovation. Et vont avoir plus de sensibilité à l'impact environnemental des choix qu'elles font dans leur entreprise.
Il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise?
Je crois que oui, mais là aussi, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais j'ai l'impression que oui, et chez les jeunes principalement.
Quittons 2025, pour y revenir plus tard. Là, j'ouvrais l'émission en parlant du 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote par les Québécoises. Sur la ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec, outre 1940, l'obtention du droit de vote, quelles autres avancées particulièrement significatives vous viennent en tête? Tantôt, Shirley, tu as énuméré une liste, là.
Oui, mais j'ai fait mes devoirs avant de venir ici. Et puis, je m'étais fait une petite liste, justement, par rapport à l'équité salariale, même si c'est pas encore parfait. La contraception, l'avortement, une meilleure protection pour les victimes de viol. Il y a tellement de domaines de la vie courante pour lesquels... les droits, on utilise tout le temps le mot droit, là, ça me fatigue un peu, là, mais la situation des femmes s'est améliorée, mais on recule. Présentement, aux États-Unis, l'avortement est interdit.
Pour ces droits-là, là, tu en as cité plusieurs, est-ce que certaines d'entre vous ont vu leur maman ou grand-maman lutter? Ça fait partie des souvenirs que vous avez.
Oui. On est parti d'une génération où les femmes étaient soumises à leur mari, au curé de la paroisse. On l'a dit tantôt, même au début, il y avait le droit de vote, puis ils devaient voter comme leur mari.
On et c'était de des madame, monsieur. Hein?
Oui.
Ma mère, c'était madame Rochon.
Oui, absolument.
Chez nous, personnellement, j'ai pas vu ma mère et mes grands-mères militer ouvertement, mais c'était du militantisme familial, c'était de la résistance, de l'éducation, de
du militantisme subtil ou terrain.
Oui, non, mais c'était de dire « Hey, c'est pas comme ça que ça va se passer, puis non, on est égal et etc. » Donc, et pour moi, c'était aussi fort que le militantisme, c'était complémentaire.
C'était des fois un militantiste qui voulait plus pour ses filles qu'elle avait eu droit.
Corinna, tu veux ajouter quelque
chose? Paraît qu'en 2021, on aurait fait une avancée pour le nombre de femmes mairesses à travers la province. Mais c'est particulier, là, c'est parce que depuis l'élection de 2021, puis on retourne en élection en 2025, on va voir ce que ça va faire. Mais il y a eu beaucoup de départs pour maladie. Je pense à la mairesse de Sherbrooke. Je retourne à France, à Gatineau, qui a démissionné. Ils sont plusieurs. Je pense à la jeune, jolie et brillante mairesse de Chappé, qui était la plus jeune mairesse au Québec, qui a quitté son poste suite aux incendies et à tout ça. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire des avancées, il faut les conserver, il faut les outiller, il faut... je pense qu'il y a énormément de travail au niveau législatif encore à faire, au niveau évolutif, là. Il y a des grands pas à faire si on veut pas reculer.
La constitution du réseau des CPE, dont Suzanne Roy, qui était censée être des nôtres, est aujourd'hui la ministre responsable, c'est certainement une avancée significative pour les mais familles, oui. Et en particulier les femmes, ça?
Bien, moi, j'aurais pas pu faire de politique sans mon mari et sans mon CPE. Non, mais c'est une réalité.
Ouais. Je m'écoutais associer l'avènement des CPE à gains pour les femmes. Parce qu'on a observé qu'ils avaient ces centres de la petite enfance permis à beaucoup de femmes de ne pas trop longuement s'absenter du marché du travail, parce que ce sont elles et pas les papas qui le plus souvent s'absentaient. Puis ça me conduit à aborder ce concept de, tu vas aimer ça, je pense, Chauri en particulier, ce concept de sociologie qu'on a appelé charge mentale. Mm-hmm. Tu sais, la charge cognitive portée par les adultes, souvent les femmes, dans le cadre de la gestion du foyer au quotidien. Est-ce que le monde et les temps ont bien changé sur le partage des tâches ou peu changé? Rosabelle, qu'est-ce que tu observes chez ta génération?
Je vais peut-être parler plus de mon cas chez moi. Oui. J'ai toujours vécu dans une famille très égalitaire. Ma mère, c'est celle qui fait plus d'argent chez moi, fait que c'est quand même particulier. Et ça n'a jamais dérangé mon père, fait que c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Mm-hmm. Et même de voir que mon père, il trouve ça important, le droit des femmes, et il veut nous sensibiliser là-dessus. C'est le fun à voir aussi. Même au niveau des tâches, tu sais, ma sœur aussi aidait beaucoup à l'extérieur. C'était pas nécessairement mes frères, c'était ma sœur. Donc, je pense que particulièrement dans ma famille, c'était une révolution, peut-être.
Ouais. Les autres, la charge mentale, c'est surtout la femme.
Oui, oui, puis dernièrement, je lisais un sondage qui disait qu'au secondaire, les jeunes revenaient avec la mentalité que la place de la femme, c'était à la maison. Puis je trouvais ça épouvantable en 2025, là, c'est épouvantable. Oui, il y a des endroits, puis bien heureuse pour toi, où les gens ont évolué, mais je pense que même si les hommes font un petit peu plus leur part, il reste que le plus gros repose sur les épaules des femmes, en général. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, là, mais en général.
Bon, Shirley a levé la main. C'est peut-être pour faire un peu de psycho puis nous expliquer qu'est-ce qui fait aux femmes cultiver cette charge mentale-là.
Les couples que je connais, même jeunes, je vois que les hommes en font autant que les femmes, entre autres pour prendre soin des enfants. Ils sont aussi habiles que leurs femmes pour prendre soin des enfants. Là, ils sont pas.
Leurs femmes ne trouvent pas qu'ils passent mal la balayeuse, non? Qu'ils tournent les coins ronds avec l'aspirateur.
Ni qu'ils l'enfant tout croche avec des pantalons qui vont pas avec le t-shirt. Là.
Il faut l'accepter un peu.
Ils font très très bien. Ils font aussi bien, je pense, le soin aux enfants que la femme. Mais pour le secondaire, ce que je vois beaucoup présentement chez les jeunes hommes, c'est l'influence des courants masculinistes. Là. Andrew Tate, Tristan Tate.
On va y revenir tantôt.
C'est ça qui est dangereux, là, parce que ça va faire partie du recul, s'il y a un recul.
Jocelyne, as-tu quelque chose à dire là-dessus, toi, le partage des tâches, la charge mentale?
J'ai toujours vécu avec un homme avec lequel on a toujours partagé les tâches. Il s'est occupé de son fils autant que moi. Fait que c'est pour ça que je vous écoute, puis je me dis, c'est comme si on parle beaucoup de politique, mais dans la vie quotidienne, je trouve que le rapport des femmes avec leur mari, leur enfant,
ça a évolué.
C'est quelque chose de gratifiant, puis ça a évolué, et puis... Puis on a parlé aussi de politique à un moment donné. Moi, j'ai été sur un conseiller étudiant aussi, ça fait longtemps, mais comme conseillère. Puis je me rappelle les plus grands débats qu'on avait, c'était oui, une confrontation avec moi qui avait des idées, puis peut-être plus arriviste, puis les gars. Mais au bout de la ligne, une fois que les conflits, tout avait été dit, puis que là, il y avait une synthèse de tout ça, on avait tous grandi ensemble, là. Fait que moi, je pense qu'on a aussi ce travail-là à faire. Au lieu de juger, dramatiser ou stigmatiser les gars, je pense que c'est vraiment de jaser.
Quelqu'un
de...
a-t-il stigmatisé les gars ici ce midi? Non?
Ben je trouve qu'on est langage un peu contre. Non, c'est-tu moi?
Ah oui?
Ah non, c'est ça que j'en sais.
Moi, en tout cas, je me suis senti jamais mal à l'aise au cours de l'émission.
Je vais en profiter pour prendre la balle au bon, peut-être, pour gratifier mon mari. Parce que je l'ai dit en début de segment, sans mon CPE...
Attends, je vais essayer de trouver une petite musique.
Et sans mon conjoint. Non, mais c'est vrai, dans le sens où il y a eu un partage de tâches énorme pendant mes mandats de conseillère municipale. Puis c'est grâce à lui si j'ai pu avoir un poids en politique, là, c'est clair. Là.
Nancy, as-tu quelque chose à ajouter à cette discussion enlevante?
Oui, oui. Quand je travaillais justement à la table de concertation des femmes au Centre du Québec avec Femmes et pouvoirs puis Femmes et entreprises, il y a une élue municipale de Saint-Louis de Blandford, son nom m'échappe, mais je la salue, et qui disait on doit s'assurer dans notre vie privée de faire comme au travail. Au travail, on va accepter qu'un collègue, une collègue prépare l'ordre du jour, pas exactement de la même façon que la nôtre, mais le prépare pareil. Donc, on doit avoir ce rôle-là également. Et effectivement, on a peut-être beaucoup valorisé la suprématie des femmes dans le milieu domestique. Et je pense qu'on a à temporiser, puis à le voir comme étant un rôle d'une équipe. Donc, et que ce soit un couple homosexuel, hétérosexuel, on ne sera jamais tous les deux pareils à décider de mettre le même vêtement et de faire les couettes de la même façon.
Ça me rappelle beaucoup ce que tu racontes, ce que Pauline Marois, seule femme jusqu'ici à avoir été première ministre du Québec, raconte de son partenaire, Claude Blanchet. Donc, t'as trouvé-tu qu'il habillait mal les enfants? Disait, non, ça se peut pas comprendre les couleurs plus que ça. Jusqu'au jour où Claude a dit à Pauline, « Regarde, Pauline, là, moi, je contribue aux tâches. Laisse-moi faire ça à ma façon. Mm-hmm. » Puis là, elle raconte qu'elle n'a plus jamais parlé. Après, ça me rappelle beaucoup ça, voilà. Cette histoire. Jocelyne?
Oui?
Tu me regardes avec les yeux interrogatifs.
Non, mais c'est parce que... c'est comme si la discussion avait commencé beaucoup sur l'identité de la femme, les revendications ici et ça, puis c'est bien parce que c'est super de belles synthèses, mais moi, ça me nourrit beaucoup, puis ça me fait penser à tellement de choses. Mais dans la réalité aujourd'hui, là, les gars, là, ils veulent être avec nous. Tu sais, je veux dire, s'il y a des conflits à gérer, que ce soit avec nos chums, des membres de notre famille, ou dans un syndicat ou en politique, on va chercher... cette écoute-là, pour essayer de voir pourquoi cette vision-là, elle est comme ça, puis que nous, elle est moins comme ça, mais il me semble qu'il y a un état de guerre qui s'éteint. Il y a un désir de complicité, puis d'appartenance, puis d'égalité, mais pas juste dans le thème qu'on l'entend, l'homme égal à la femme, mais dans le discours de ce que l'on veut pour notre vie du moment présent, puis pour l'avenir.
C'est beau, en tout cas.
Les hommes sont nos partenaires.
Oui.
Pour résumer ce que Jocelyne dit, c'est les hommes sont nos partenaires. Et des partenaires, normalement, c'est égal. Les hommes sont égaux, bien que différents. Des partenaires, c'est différent, mais c'est égal. On n'est pas obligé d'être pareil, on n'est pas obligé d'être des siamois.
Ce sont nos partenaires, nos fils, nos pères.
Oui, les fils.
Nos frères.
Oui.
Ouais. Mais... je pense que nous six, on a la chance d'être entourés et d'avoir choisi de s'entourer d'hommes qui nous plaisent et qui ont des idées semblables. Malheureusement, ils ne sont pas tous à la même, j'allais dire,
à
niveau, mais peut-être
même
pas à la même place. Le cheminement n'est peut-être pas tous là. Et n'oublions pas que c'est la journée internationale du droit des femmes.
Oui, ben on va y
Québec,
aller tantôt.
Le Québec, on est quand même privilégié. Il reste des acquis à peaufiner, il reste des luttes à peaufiner, à maintenir. Il reste des acquis à surveiller avec les... On voit nos voisins.
Je m'en vais là, à l'international. On va s'interrompre pour des publicités. Je profite de la pause pour faire du ménage dans mes idées. Et c'est la Tribune des femmes à CJSO.
Ici Luc Denoncourt. Je vous invite à assister à l'enregistrement de l'émission Studio 101, lundi le 10 mars à 19h30, avec Ojo.
Scander mes peines d'amour et mes états d'amour.
Well.
Ça fait longtemps que je vis ma vie, j'ai l'impression que j'ai rien appris. Yeah, yeah.
L'émission est enregistrée à la salle du Centre de services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel. Il suffit de vous procurer vos billets à CJSO. Studio 101 vous est présenté par...
l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton.
En collaboration avec...
la bijouterie Daniel Blette.
Le pro du conduit Edel.
La ferme du Barbu, Boucherie Royale.
Voyage Richelieu.
Pure détente et spa.
William J. Walter, saucissier.
Jean Coutu, Tracy.
Et gestion événementielle Deschênes.
En cette semaine de relâche dans Valérie, l'après-midi, toute la semaine, je reçois de jeunes musiciens issus du programme Systema de la Maison de la Musique. Et mardi à 16h35, on parle avec une artiste qui, elle-même, est professeure de chant et de musique, Chloé Leclerc.
Valérie, l'après-midi, une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
À l'émission aujourd'hui, La condition féminine, mes invités Corina Bastiani, ex-conseillère municipale, ex-candidate au fédéral pour le Parti vert, ex-candidate à la mairie, puis bien des affaires actuelles aussi, là, femme d'affaires, écoute. Jocelyne Bibeau, ex-enseignante, chorégraphe et danseuse, Nancy Annie Léveillé, coordonnatrice de projet en économie circulaire chez Montérégie économique, Rosabelle Picard, étudiante au cégep de Sorel-Tracy, Shirley Saint-James, enseignante retraitée du cégep de Sorel-Tracy, et Lisette Trépanier, présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu. Bon, il y a le Québec, il y a aussi le reste de l'humanité. Quand je vous ai sollicité pour participer à cette tribune, Shirley, vous m'avez écrit combien vous inquiétaient les reculs observés en Iran, en Afghanistan et aux États-Unis, entre autres à l'égard du droit des femmes. Je vous laisse partager vos inquiétudes aux auditeurs.
Oui, mais ces pays-là, quand on regarde des photos des femmes il y a 30, 40, 50 ans, les femmes, à l'époque où nous, on portait des mini-jupes, ils portaient des mini-jupes elles aussi. Elles n'avaient pas de voile sur la tête. Et là, elles n'ont plus le droit d'étudier, elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont même plus le droit de chanter ou de parler lorsqu'elles sortent de chez elles. C'est grave, là. C'est un recul. Elles ont à peine le droit d'exister et de se reproduire, de servir à la reproduction d'espèces. C'est à peu près le seul droit qui leur reste. Je pense pas qu'un jour on va en arriver là. Mais quand je vois notre voisin du Sud, les États-Unis, qui était quand même un pays évolué, un pays avancé, un pays très civilisé, où les femmes ne peuvent plus se faire avorter, où les femmes ne peuvent plus avoir accès à la contraception. L'avortement sert bien souvent à corriger les accidents de la contraception. Alors, elles ne peuvent ni se faire avorter, ni utiliser de contraception, et on parle même de leur retirer le droit de vote. Est-ce que tout ça va percoler ici? Ça m'inquiète.
Bon, alors, ce qu'on voit naître un peu partout, ce sont des mouvements masculinistes. Yves Boisvert, dans la presse, écrivait, tu m'as partagé ça, le 28 février, que l'affaire Andrew Tate expose magistralement les liens entre l'univers trumpien et les champions de la masculinité toxique là, sur les réseaux sociaux. Mouvement masculiniste, c'est une autre affaire là, qui te terrifie. Là.
Et ça percole. Et ça percole partout.
Les autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait craindre beaucoup, ça? Oui, Rosabelle Picard?
Je pense que c'est plus de sensibiliser nos jeunes à les informer que, oui, c'est une perspective à avoir, mais malgré tout, il faut quand même se rappeler que la position de la femme, leur mère, leur sœur, leur tante sont mises à coup avec ces positions-là. On ne peut pas nécessairement barrer une position parce qu'il faut accepter les positions de tous, mais il faut quand même enseigner un peu, vraiment sensibiliser, je pense.
Mm-hmm. Lisette?
Bien, tout à fait d'accord avec, excusez Rosabelle, c'est une lutte de pouvoir. Dans le fond, ces politiciens-là qui veulent enlever le droit à l'avortement ou la contraception aux femmes, c'est le pouvoir qu'ils veulent avoir sur les femmes de la société. Puis oui, effectivement, c'est peurant.
Dans le cas de celui qu'on parle, Trump, c'est pas juste sur les femmes, c'est sur tout le monde, finalement.
Oui, oui. Mais là, on parle plus précisément des femmes.
Oui,
je pense
qu'il
faut être à l'affût d'écouter les gens qui veulent se présenter en politique, d'écouter. Faut en tenir compte du respect ou non que ces gens-là peuvent avoir envers la condition féminine dans nos choix. Faut plus être comme autrefois, les bleus, les rouges. Tu sais, je pense qu'à chaque élection, faut évaluer les gens, hommes ou femmes, qui se présentent. Faut absolument éviter d'ouvrir la porte pour perdre des droits des femmes au Québec et au Canada.
On parlait des États-Unis. Il va y avoir une manifestation devant les consulats des États-Unis à Montréal et à Québec le 8 mars, Journée internationale des femmes. Là aussi, Shirley, c'est toi qui m'as partagé ça. toi, je pense que tu as le goût d'organiser un autobus. C'est pas une flotte d'autobus.
Écoute, si on peut être une gang de Sorel qui s'en va à Montréal, c'est à 11h samedi devant le consulat des États-Unis. La même chose à Ottawa aussi va se passer devant l'ambassade des États-Unis, parce qu'il faut quelque part que des gens réagissent. Et actuellement, aux États-Unis, on a l'impression que tout le monde est un peu comme un chevreuil devant des phares allumés et il fige. Alors, il faut envoyer un message clair qu'on ne reculera pas.
En terminant, il reste 4 minutes, quelle lutte prioritaire estimez-vous que les Québécoises, on vient chez nous, est à mener pendant la prochaine décennie pour améliorer encore leur sort?
L'équité salariale, en partant, est une lutte qui date d'il y a longtemps. Il y a des lois qui encadrent ça, mais le gouvernement a du mal, étire les délais, il faut régler ça. C'est un dossier qui est important pour nous, qui est un syndicat FSE-CSQ. Je pense que c'est important pour tout le monde. Même les gens pas syndiqués, si à un moment donné, tout ce que les syndicats font a un impact sur tous les travailleurs de la société, là, c'est ce qu'il faut se dire. On se bat même des fois pour le salaire minimum, là. Mais je pense que l'équité salariale, c'est vraiment une lutte importante.
Très bien, Lisette. Nancy Annie?
J'ajouterais le maintien des acquis. C'est le 1er 8 mars où je serai inquiète. Depuis, j'avais tout le temps l'impression qu'on avançait, même quand on apprenait des choses sur l'international, on se disait « oui, mais nous, au Québec, on avance ». Là, je trouve que les reculs sont très proches de notre frontière. Et le deuxième, on n'en a pas parlé ce midi à micro ouvert, mais la violence. La violence faite aux femmes, les féminicides. Encore 14 femmes l'an dernier, de 27 à 81 ans, qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. L'éducation faite à nos hommes, l'éducation faite aux gens, c'est pas une réponse, c'est pas... Il faut trouver une façon, c'est pas un problème simple, mais il faut vraiment trouver une façon de réduire ceci.
OK. Lutte prioritaire des prochaines décennies pour vous, Jocelyne?
Bien, j'aime beaucoup ce que tu viens de nommer. Là, c'est une super de belle synthèse. Que les femmes restent debout, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles réalisent leurs rêves, qu'elles entraînent leur chum, leurs enfants... qui développent des valeurs solides pour elles-mêmes, les familles, la société, puis continuer à être là, présente partout, dans tout ce qui se passe, puis à nommer, puis à dire ce que nous, on veut. Alors, je pense que c'est ça. La communication aussi entre femmes, on n'a pas tellement parlé de ça, là. Mais c'est aussi cette importance.
Vous avez c'est beaucoup certes, communiqué.
Là. Oui, oui. Non, mais on se comprend. Des fois, les filles, oui, oui. On n'en jase pas tellement
ouais.
Tout ça. Oui.
OK.
Bon, je pense.
Des places où les femmes puissent...
Mais peut-être pas des sujets aussi complexes, ouais, là, ouais. Oui.
Plus de forums de discussion, là, pour les femmes. Shirley?
Que les hommes sont nos partenaires et qu'on est contente quand eux aussi veulent l'égalité.
OK. Lutte prioritaire, d'après toi, Corina, de la prochaine décennie là, pour les femmes, pour qu'elles améliorent encore leur sort.
L'information, entre autres, parce que, bon, on le voit chez nos voisins du Sud, l'information est d'autant plus détenue. On a de plus en plus de difficultés à avoir de la vraie information pour tout ce qui est à venir, toute la nécessité d'avoir des visions aussi de prospective. Je pense que c'est un don féminin, ça, la vision de prospective. Mais bon, je crois que c'est important. Puis dans tout ça, s'informer, puis aller voter.
Tout passe par l'éducation.
Bien oui, sûr, oui, très bien. Bien sûr.
J'ajouterais nommer.
Vas-y donc,
nommer les femmes, nommer les combats. Dans les deux dernières années, j'ai vu souvent, moi j'ai deux jeunes femmes de 23 ans à la maison, et des documents qui se promènent, où est-ce qu'on parle de la personne qui accouche, où est-ce qu'on parle, tu sais qu'on veut pas nommer la femme, on veut faire attention, les genres, et etc. C'est une femme qui accouche. Donc, il faut pas avoir peur de nommer. Les chances puis, dans le lait.
Aimer nos générations futures aussi.
Ah oui.
Je pense, moi, j'ai deux garçons, là, puis je les trouve tellement doux, intelligents, et tu sais, je t'entends parler aussi, sont importantes, ces générations futures-là, là, pour... Mm-hmm.
Mais Rosabelle, on va laisser à la génération qui pousse le dernier mot. Rosabelle.
Moi, je dirais que c'est vraiment d'encourager les femmes à poursuivre leurs rêves. C'est un peu que, pour conclure, là, tu sais, poursuivre leurs rêves, puis... les encourager à aller dans les politiques, dans des milieux où que, dans le passé, c'était prédominance masculine, mais qu'ils ont leur place aussi et qu'on veut les entendre.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous six, Corina Bastiani, Justine Bibeau, Shirley St-James, Nancy Annie Léveillé, Rosabelle Picard, Lisette Trépanier. À l'avance, bonne journée internationale des droits des femmes. C'est important aussi de bien la nommer, cette journée-là, parce qu'on entend toutes sortes d'appellations, parfois assez bizarres. Alors, à cette émission, mardi prochain, on entendra cette fois de jeunes scientifiques, jeunes garçons et jeunes filles, de Bernard Gariépy et Fernand Lefebvre et leurs profs. Bonne semaine, tout le monde. La tribu.